Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans nos vies, y compris nos vies spirituelles, l'engourdissement nous guette toujours, une sorte de sommeil de pente glissante qui nous fait perdre le nord, arrêter de viser les étoiles. Et c'est d'une étoile justement dont nous allons parler ce matin, d'un certain Carlo Acutis. Ce n'est pas une star du cinéma, mais une étoile dans le ciel, a justement dit de lui le cardinal Angelo Scola. Né en 1991, Carlo Acutis est un jeune de la génération internet, un geek, même à la fois simple et inébranlable, mort à l'âge de 15 ans. Un adolescent dont le corps est actuellement exposé à Assise, à l'occasion de sa prochaine béatification par l'Église, le 10 octobre prochain. Carlo Acutis, premier geek bienheureux, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour nous en parler, on est allé les chercher, et même loin, Will Conker, vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris, et actuellement donc en poste, si je puis dire, au Cambodge, et auteur d'un ouvrage intitulé Un geek au paradis, paru aux éditions Première Partie. Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous m'entendez, tout va bien.
Vous m'entendez ?
Aurore Caudal, vous êtes chef de projet livre pour ces mêmes maisons d'édition, les éditions Première Partie, et vous êtes avec nous, vous, depuis Paris, en duplex depuis les studios de Radio Notre-Dame. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous deux d'avoir répondu présent grâce au miracle de la technologie. On est allé vous chercher loin, mais on s'est dit qu'il fallait se donner les moyens ce lundi d'essayer de parler de cette belle figure. Carlo Acutis, qui est donc un jeune Italien, on va le découvrir au long de cette émission, qui va donc être béatifié par l'Église le 10 octobre prochain. On va parcourir sa vie, voir quelques-uns de ses grands traits, on va dire, de sa vie spirituelle, de son héritage spirituel même, pour ce jeune homme mort à l'âge de 15 ans en 2006. Et puis on essaiera de voir à la fin de l'émission ce qui peut évidemment nous dire de manière plus précise à chacun et pourquoi il vous parle autant. Alors ça n'est pas habituel, on se sent un petit peu gauche pour une émission comme celle-là, de parler d'un jeune homme né en 1991, mort en 2006 et dont le corps est actuellement exposé à Assise. Alors on va peut-être commencer par ça, Will Conker, pour ceux qui nous rejoignent, qui suivent cette émission. Exposer le corps de quelqu'un, quel sens ça a ?
C'est énorme. Je ne sais pas si vous avez vu l'engouement que la photo partagée sur les réseaux sociaux a suscité la semaine passée. Hein. Enfin, c'était il y a 3 jours. Et ça a été partagé des millions de fois. Il y a toute une vidéo, certains critiquant une sorte de mise en scène, mais d'autres avouant leur fascination. Alors, il faut remettre les choses en place. On ne parle pas d'une incorruptibilité. Hein. Ça, il faudrait être la Vierge Marie. Notre corps, lui, était malade. Son corps était corruptible de son vivant. C'est pour ça qu'il avait une maladie. Mais il y a une préservation de ses organes vitaux qui est impressionnante et du coup, qui a permis la création de reliques. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'à partir du moment où il était vénérable, on pouvait déjà le prier. Et maintenant, on va pouvoir, avec la béatification, partager ses reliques et avoir des reliques de lui. Et j'espère peut-être un jour aussi au Cambodge. Et du coup, c'est quelque chose de très, très grand. Et du coup, la vénération d'un corps, qu'est-ce que c'est ? Pour nous, c'est pas une idolâtrie. Hein. On est conscient que ce n'est pas encore le corps glorieux, mais c'est un rappel ô combien important de la réalité de sa vie. Carlo, il rentre dans notre contemporanéité. Il rentre dans notre temps avec ses baskets Nike et son sweater. Il nous rappelle que la sainteté, c'est ici et maintenant. Et à ceux qui voudraient en faire un ange, eh bien, ses reliques nous rappellent qu'il avait un corps. Alors, c'est ça qui est important.
On
ne
va
pas faire une nouvelle image d'Épinal, mais de se rappeler que Carlo, il était bien l'un de nous, l'un des nôtres.
Alors justement, on va découvrir la vie de cet homme. C'est vrai que donc son corps est exposé et il a un sweat. Voilà, ça n'est pas comme Bernadette à Nevers qui elle a son habit de religieuse. Lui, il a son sweat. Ce jeune donc né en 1991. Alors dans cette première partie, ce que je vous propose, c'est donc on parcourt à grands pas sa vie et puis après on s'arrêtera sur d'autres aspects. Comme toujours, faut commencer par le début. Carlo Acutis, né en 1991, donc à Londres, d'une famille d'exilés italiens. Dans quel milieu a-t-il grandi, Will Conker, y compris milieu religieux ?
Alors, Carlo grandit à Londres parce que, enfin, né à Londres, et quelques mois après sa naissance, ils vont revenir sur Milan. Ses parents sont à Londres parce qu'ils sont en train de faire leurs premières armes dans la finance. Les deux viennent de familles assez aisées. De l'Italie et comme beaucoup, moi je parle de mes amis, hein, ils sont actuellement à Londres pour travailler dans la finance et c'est la capitale, c'est là où on se forme, c'est là Donc, quand on est jeune, on apprend à devenir trader et tout ça. Et ses parents sont dans ce milieu-là. Et moi, je le vois par rapport à mes amis. C'est un milieu où on est très, très pris et où la priorité du spirituel perd quelques échelons, on va dire. Et du coup, les parents de Carlo, c'est le cas. Et alors, bien sûr, Carlo est baptisé à Londres un peu par tradition, comme beaucoup de nos compatriotes français sont baptisés par tradition. Et c'est Carlo va naître dans cette famille où parfois le vernis de la religion aurait pu cacher la réalité de l'amour de Dieu. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères chrétiens aussi et dans l'Église grandissent dans des familles comme celle de Carlo. Et parfois, on a l'impression qu'en fait, ça nous rend plus tiède du fait qu'on a grandi dans la foi et qu'en fait, on a eu tout ça presque d'office. On a du mal à redécouvrir. Moi, quand je compare avec ma maman qui était catéchumène, qui a été baptisée à 25 ans, elle a une fraîcheur dans sa foi qui a transformé ma famille.
Et c'est vrai que alors juste, Will Conker, je vous propose qu'on reste sur la vie de Carlo Acutis. Il naît donc à Londres, comme vous dites. Il y a quand même des racines, on va dire plus qu'italiennes. En tout cas, il retourne régulièrement donc dans un village au sud de Naples, si j'ai bien compris, qui s'appelle Sentola. Parlez-nous de ses racines et dans sa famille, il y a quand même des figures de foi.
Oui, mais sa grand-mère qui va même prier le chapelet, mais il a une autre grand-mère qui lui dit que ça lui casse les pieds d'aller à la messe avec lui tous les jours, quoi, et qu'elle dit c'est bien, t'as la foi, mais faut pas trop en faire non plus. Donc c'est un catholicisme, on peut dire, bourgeois, finalement, avec une piété populaire du côté napolitain. Mais lui, quand il y va, c'est essentiellement des vieilles dames qui sont à la messe, hein, comme dans nos petits villages du sud de la France, où il y a ces villages des femmes qui vont prier. Lui, faut être honnête, hein, sa famille, c'est lui qui va porter ça. Et la mère, à sa maman, Antonie, elle a dit combien de fois que c'est son petit sauveur, quoi. C'est-à-dire que normalement, c'est les parents qui transmettent la foi, mais elle va dire c'est mon fils qui m'a tiré, un peu comme la petite espérance de Charles Péguy, par la main pour revenir vers l'Église, vers une pratique plus authentique de la foi. Donc il va aller souvent dans le sud de l'Italie, là, à Centola, très très bel endroit, magnifique, petite église. Il va aller à la messe, évidemment. Il habite, quand on est dans l'appartement de la famille Acutis à Milan, l'église, elle est à 3 minutes à pied. Et il y a l'adoration eucharistique et tout ce qu'il faut pour se sanctifier. Et donc, c'était pas non plus très compliqué pour lui. Il avait fait à portée de main, mais comme la plupart d'entre nous. Et du coup, lui, il va avoir cette pratique qui va se transformer à partir de sa première communion. Avant ça, et c'est un enfant comme les autres.
Alors sa première communion, justement.
La première communion qui va être l'étape décisive.
Voilà, il l'a fait donc en 1996. On va essayer de parler donc de la vie spirituelle de cet enfant avant de parler de l'adolescent. Il y a quand même une question qui m'a traversée quand j'ai parcouru votre ouvrage, et je n'oublie pas de vous donner la parole aussi, Aurore Caudal. C'est sur quoi en fait vous avez fondé votre livre, parce que vous dites vous-même qu'il n'a pas écrit de journal intime. Il n'y a pas eu d'histoire d'une âme, pour reprendre le récit de la vie spirituelle de Thérèse de Lisieux, cette carmélite française maintenant quand même relativement connue. Comment est-ce que vous savez ce que Carlo a vécu? Comment vous y êtes pris pour écrire ce livre, Will Conker?
Parce que je pense que c'est la personne canonisée dont on a le plus de témoins vivants, après Jean-Paul II ou Mère Thérésa. C'est-à-dire que lui, on peut rencontrer son cousin, on peut rencontrer celui qui a fait le ménage dans sa chambre, on peut rencontrer le gardien, vous allez à Milan et vous rencontrez toute sa vie. Vous rencontrez le gardien de l'école où il était, il n'a pas changé. Le médecin du service où il est mort, il est encore là. Et donc vous pouvez rencontrer toutes ces personnes. Et en fait, dans sa vie qui est si brève, quasiment tout est déjà écrit. Il y a quelques livres qui ont été écrits en italien, dont j'ai pu m'inspirer. Il y a pas mal d'informations qui sont destinées à Internet, et puis après, moi, j'ai pu avoir les longues conversations avec sa maman, qui est une mémoire vivante de son fils. Je veux dire, elle est très au clair là-dessus, et elle est extraordinaire parce qu'elle partage ça avec tellement d'humilité. Son but, elle, c'est pas de faire monter son fils sur les autels, mais c'est de proposer un nouveau modèle à la jeunesse pour que toute notre jeunesse puisse elle aussi devenir sainte. Alors... Et du coup, c'est comme ça qu'on connaît Carlo, c'est par des témoins vivants.
Donc par les témoins vivants, c'est une bonne réponse, mais c'est vrai qu'elle est inhabituelle, et du coup, de fait, ça a de quoi surprendre. Donc il fait sa première communion en 1996, c'est important d'en parler, parce que l'Eucharistie va avoir une place en fait singulière, extrêmement forte dans la vie de ce jeune garçon de la génération Nintendo et Game Boy. Qu'est-ce qu'on sait de cette première communion?
Extraordinaire, à 5 ans, hein. Donc 96, 91, il y a 5 ans. Donc il est extrêmement jeune. Hein. D'habitude, on peut Je veux dire que la première communion, c'est vers 7 ans. Donc il est un peu plus jeune que la moyenne, c'est lui que ça vient d'une demande particulière. Il ne fait pas ça chez lui, il fait ça un peu en dehors de Milan, dans un couvent de religieuses. Donc c'est très très fort, très très fort. La question qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que cet amour de l'Eucharistie aujourd'hui nous interpelle? Pourquoi est-ce qu'avoir un jeune aujourd'hui qui veut vraiment mettre l'Eucharistie au compte de sorte de sa vie, pourquoi est-ce que nous, ça nous interpelle? Parce que je pense qu'on a tous besoin d'être renouvelé dans notre foi, eucharistique en particulier. Et lui, ce qui est fou, c'est qu'il va prendre cette résolution folle pour un enfant de 5 ans, d'aller à chaque fois qu'il peut à la messe, c'est-à-dire tous les jours. Et alors peut-être qu'il a raté une ou trois fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, sa maman témoigne qu'à chaque fois, à tous les jours, il y allait. Sa cousine a dit que quand on allait en vacances avec Carlos, c'était super sympa, mais venu l'heure de la messe, eh bien, il fallait absolument qu'on aille à la messe avec lui. Et il ne forçait pas les gens, mais il a insisté pour que vraiment les gens se rendent compte de la grâce qu'on a de pouvoir recevoir chaque jour le corps et le sang de Jésus-Christ, quoi. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup le marquer. Et c'est ça qui va le conduire, en grandissant dans cet amour, vers finalement l'exposition, c'est le miracle eucharistique. Mais c'est vrai que ça nous interpelle, nous. Et il faut essayer aussi peut-être de resituer les choses. À l'époque, donc Carlo, il est à l'époque où c'est Jean-Paul II qui est pape. Jean-Paul II, il va avoir la très belle encyclique sur l'Eucharistie. Il va se rendre compte qu'on est dans un monde qui a du mal à accepter cette présence de Dieu dans la simplicité de notre messe quotidienne. Et Carlo, lui, va nous montrer que oui, Dieu est bien là. Dieu est bien présent au milieu de nous. Et moi, je me souviens pas. Enfin, on a le même âge quasiment, les deux ans de différence avec Carlo. Et c'est vrai qu'il faut penser qu'il y a eu un renouveau eucharistique dans l'Église énorme. Et on revient d'un peu loin. Il y a eu des très bons mouvements, par exemple, à Paris, il y avait quelque chose comme Abba. C'était les premiers à relancer l'adoration eucharistique. Il y a des choses très très belles comme ça. Il faut se rendre compte qu'en fait, l'adoration eucharistique, la foi eucharistique, c'est pas gagné d'avance. Et aujourd'hui encore, dans notre monde qui devient très matérialiste, eh bien, il nous faut des signes comme Carlo pour raviver notre foi. Je pense que peut-être que Aurore, elle est d'accord avec moi, je vais pas en parler, elle a des enfants. Mais c'est vrai que parler de la foi eucharistique à des enfants, eh bien, c'est pas toujours évident.
Aurore Caudal, donc vous êtes chef de projet donc aux éditions Première Partie. On va dire que pour une fois, on a fait un peu une exception. On s'est dit qu'il fallait avoir les moyens d'avoir des voix complémentaires. En général, on n'invite pas les professionnels des maisons d'édition. Peut-être avez-vous en effet plus l'âge vous comprenez peut-être d'autant plus au regard de votre âge ce qu'il y a de frappant dans cet itinéraire de vie. Qu'est-ce qui a parlé en fait aux éditions Première Partie? Pourquoi avoir voulu publier ce livre? Qu'est-ce qui vous a touché?
Alors l'idée, c'était vraiment de pouvoir publier une biographie d'un saint qui puisse parler à la jeunesse d'aujourd'hui. Et en fait, on n'a personne d'autre que Carlo qui puisse autant parler à la jeunesse d'aujourd'hui. En tout cas, c'est le premier bienheureux de la génération Internet. Et c'est même le premier bienheureux qui a joué à Super Mario sur PlayStation avec ses copains. C'est le premier bienheureux qui a eu une adresse courriel, qui a eu un téléphone portable dans sa main. Donc voilà, c'est une figure qui est vraiment ultra pertinente pour les jeunes d'aujourd'hui parce qu'il a vécu la même chose que ce que les jeunes vivent aujourd'hui, avec quelques décalages bien sûr technologiques, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment communes. Et voilà.
Will Conker, on disait de lui ce qui lui attirait tant d'amitié, c'était sa capacité à sourire et à faire sourire. Quand on parcourt l'adolescence de ce garçon, sa mère dit lui-même que c'est, on va dire, c'était un garçon d'une certaine manière comme les autres. Vous qui avez essayé de rencontrer quelques-uns de ses contemporains, qu'est-ce qu'ils disent de l'adolescence de ce garçon? Il avait beaucoup d'amis, passait beaucoup de temps à les écouter par téléphone, il aimait le football, dites-vous. Qu'est-ce qui reste dans les témoignages des gens que vous avez rencontrés?
Il reste ses amis, quelques amis. Alors après, c'est pas tous des piliers d'église aujourd'hui. Hein. Enfin, il y en a qui tiennent des restos, il y en a qui sont devenus ingénieurs et tout ça. Chacun mène sa vie. Moi, celui que j'ai préféré rencontrer parce que je pense vraiment que c'était son meilleur ami, c'est Rajesh. Rajesh, c'était le domestique, mais c'est pas un mot très joli. C'était celui qui faisait tout chez les parents de Carlo. Et il est devenu peu à peu le meilleur ami de Carlo. Et lui, on a beaucoup parlé avec Rajesh, et il parle français, il parle italien, il parle anglais, et il a une connaissance très intime de Carlo, parce qu'il l'a connu tout petit, il l'a connu jusqu'à sa mort, et c'est grâce à lui qu'il est devenu chrétien. Et donc quand il en témoigne, moi ce qui m'a beaucoup surpris, on était d'accord avec lui, c'est que c'est surprenant. Quand on voit le père de Carlo, c'est un Italien du Nord, quelqu'un d'une droiture exceptionnelle, qui travaille dans l'assurance, qui est quelqu'un très très sérieux dans sa foi aussi, mais qui n'est pas aussi chaleureux, par exemple, que sa mère. Et on aurait pu penser que Carlo ait pris davantage de son père, quoi, quelqu'un un peu voilà, strict, sérieux. En plus, il est enfant unique. Donc, on peut imaginer peut-être quelqu'un qui aurait pu être, je sais pas, moins extraverti que Carlo. Et Carlo, ce qui est fou, c'est que il va pas vivre dans sa bulle. Il aurait pu, par son milieu social, en plus, très, très, voilà. Puis imaginez, dans l'immeuble où ils habitent à l'étage noble, c'est la famille que tout le monde connaît dans l'immeuble. Il aurait pu, voilà, se prendre pour quelqu'un, être un peu l'enfant gâté, terrible, qu'on a dans nos supermarchés. Et ben, non, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui va toujours avoir cette curiosité d'en savoir plus sur les autres, d'aller à leur rencontre, que ce soit des gardiens d'immeuble, que ce soit des gens dans la rue, vous imaginez le quartier où il a grandi, c'est un quartier assez privilégié, mais c'est un quartier aussi à une certaine mixité, parce que on est dans le centre, on n'est pas loin du centre de Milan, donc c'est une ville très cosmopolite. Hein, c'est pas le sud de l'Italie où c'est un petit village avec que des Siciliens ou que des Napolitains. C'est Milan, donc c'est une ville très cosmopolite. Dans la rue, il habite. Là, moi, j'ai vu, il y a tout le monde qui se croise. Et lui, il va être ouvert à ce monde-là. Et ça, c'est ce qui me frappe beaucoup avec Carlo, c'est que on peut dire qu'il a déjoué les pronostics. En étant quelqu'un d'extrêmement ouvert et d'évangélique dans son équipe avec tous,
oui.
Et ce qui a le plus à cœur, éventuellement, c'est effectivement et évidemment, c'est le partage de la bonne nouvelle.
Alors, avant qu'on fasse une première pause, oui. Will Conker, j'aimerais qu'on parle de la fin de sa vie. Donc, en 2006, donc on lui découvre une leucémie. C'est une mort foudroyante. Si j'ai bien compris, ça se passe en quelques jours, voire en quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut dire de la fin de sa vie? Vous citez une infirmière qui disait de lui, c'était l'humilité même. Comment a-t-il vécu cette fin d'existence?
Alors, c'était pas quelques mois, hein, quelques jours. Hein, c'est une mort foudroyante. Mort foudroyante. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai eu la chance d'aller dans l'hôpital où il est décédé, donc les bâtiments n'existent plus, l'hôpital existe encore, mais le service a été déplacé. Donc, le service de pédiatrie, là où il est décédé, il a été déplacé. Donc, c'est des nouveaux bâtiments très modernes où j'ai pu rencontrer un médecin qui l'avait aussi traité. Et ce qui est impressionnant, c'est que bon, eux, ils voient des situations douloureuses de parents qui perdent leurs enfants tous les jours. Ils voient des enfants qui souffrent et c'est dur à voir. Et moi, quand j'y allais, ça m'a vraiment pris au trip parce qu'on voit dans chacune de ces chambres des enfants qui sont face à des souffrances qui sont difficiles à accepter quand on est à un regard extérieur, quoi. Comme moi, ça me fait mal de les voir. Et ce qui est beau, c'est que Carlo, il a laissé cette image auprès de ce personnel médical. De quelqu'un qui au début, à vouloir demander une guérison, ne pas croire à sa maladie, il n'était pas prêt à accepter que Jésus l'abandonne. Jésus, mais il y a mon exposition qui va bientôt commencer, tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Et en fait, en quelques heures, il va aussi comprendre qu'en fait, Jésus lui demande de tout abandonner. Il a travaillé, Carlo, là, toutes ces dernières années pour monter une exposition, donc il ne va même pas avoir l'inauguration, et il doit tout abandonner, faire confiance, Seigneur, que ça porte du fruit. Voilà, moi je suis au début de ma vie, j'ai du talent, j'imagine que j'ai plein de trucs à faire, et ben non, et là sa vie ça va s'arrêter. Et c'est vrai que du coup ça a été un témoignage pour tous, et ça a été un soutien pour ses parents. Vous imaginez, les parents qui perdent leur enfant unique, enfin c'est des parents qui connaissent ça, peut-être des auditeurs qui connaissent ça, c'est une souffrance à une autre comparable, quoi. C'est la Mater Dolorosa de la Vierge Marie au pied de la croix, hein. C'est une souffrance, on est vraiment traversé par le cœur, traversé par une épée quand on arrive une épreuve comme ça. Et heureusement, Carlo, il a pu soutenir encore une fois, de même qu'il avait soutenu ses parents pour avoir la foi, eh bien, il a soutenu ses parents pour avoir l'espérance de croire encore, malgré la maladie et la mort.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. Donc Carlo Acutis qui va être béatifié le 10 octobre prochain, né en 1991, décédé en 2006. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Première Partie, Un geek au paradis, donc paru dans cette maison d'édition.
Thank you.
Carlo Acutis, un geek bien heureux, premier geek bien heureux, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, sur cette belle figure, ce jeune homme italien né en 1991, décédé en 2006 à l'âge de 15 ans, et qui donc va être béatifié par l'Église. Ça sera à Assise le 10 octobre prochain. Avec nous pour nous en parler, Will Conker, qui est prêtre des missions étrangères, actuellement au Cambodge, auteur d'un ouvrage intitulé Un geek au paradis, paru aux éditions Première Partie, et Aurore Caudal, qui est chef de projet dans cette maison d'édition qui est avec nous en duplex depuis les studios de Radio Notre-Dame. Alors, on l'annonce que c'est un geek. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Dans votre livre, vous resituez, vous dites que quand il naît, on en est à passer du Minitel à Windows. Vous rappelez que la Game Boy, c'est 1991, et le début des téléphones portables, 1990. Quand on lit votre biographie et la vie de ce garçon, on se dit qu'il avait, d'une certaine manière... Alors d'abord, un geek, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y passait des heures, beaucoup d'heures, ça veut dire qu'il savait programmer, Will Conker?
Oui, exactement, tous les deux. Il passait pas tant de temps que ça au début, mais quand il a dû compléter sa mission là, de faire son exposition, ça lui a pris beaucoup de temps, effectivement. C'est surtout que c'était une passion. Un geek, c'est un passionné. Donc Cardo, on peut dire avant tout que c'est un passionné d'informatique.
Oui, alors passionné de l'informatique. Je vous ai dit de faire plus court, mais n'hésitez pas quand même à prendre le temps de répondre. Hein. Quand vous dites exposition, je le précise auprès des auditeurs, puisque vous avez cité à plusieurs reprises, c'est qu'une des grandes aventures de sa vie, ça a été de monter une exposition sur les miracles eucharistiques, et cette exposition qui a eu lieu alors qu'il décédait, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce que ce garçon, dans la manière qu'il avait d'utiliser un Internet avait d'une certaine manière une longueur d'avance. Dans votre livre, justement, il y a un passage là-dessus. Vous mettez en regard, quelque part, les activités sur le web de Carlo Acutis et puis la présence de l'Église à l'époque sur la toile. Est-ce que ce garçon était visionnaire d'une certaine manière, Will Conker?
Ah oui, c'est un pionnier, je veux dire. Il est à l'évangélisation sur Internet ce que Thomas Edison est à l'électricité, quoi. C'est un pionnier, c'est quelqu'un qui va avoir une idée que personne a à l'époque, très très peu jeune à l'époque. Moi, étant jeune, j'étais sur Internet et je me souviens, les gens pensaient qu'on perdait notre temps. Les parents disaient, mais qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur, tu perds ton temps. Et lui, non, il comprend qu'en fait, ça va être le nouveau continent à évangéliser. Et donc, c'est un pionnier, c'est le Christophe Colomb de l'Amérique pour le sixième continent qui est Internet. C'est quelqu'un qui va oser faire ce que personne pensait possible à l'époque, annoncer l'évangile par son ordinateur.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous dites qu'il travaille à monter, je crois, un site pour sa paroisse, mais il ne se contente pas de cela. Aujourd'hui, quand on tape son nom sur Internet, vous dites qu'il y a presque 200 000 occurrences. Qu'est-ce qu'il a fait de son vivant, justement, pour annoncer la bonne nouvelle sur ce nouveau continent, sixième continent, comme on dit aujourd'hui?
Alors, la première chose, je vais dire, c'est d'avoir une relation sociale de la technologie. Lui, il a la console chez lui, mais il s'en sert pas pour jouer tout seul toute l'après-midi. Il s'en sert pour inviter ceux qui n'ont pas trop de copains. Il s'en sert pour inviter les autres. Donc, il a un rapport social à notre technologie. Ça, c'est le premier truc que je veux dire. Deuxième chose, c'est qu'il a un rapport ecclésial. Et en fait, au début, ça va être son curé qui va lui demander de l'aide. Son curé, il sait discerner les charismes, il sait discerner les talents. Il voit que ce petit jeune, il a un talent incroyable. Il va lui demander de monter le site internet de la paroisse. Et ça marche bien. Et Carlo, il dit, c'est pas mal. Et là, il va avoir un rapport guidé par l'Esprit Saint. Il va avoir cette intuition. Quand il va à Rimini, il voit tous les chrétiens qui sont engagés dans la société à l'occasion d'une rencontre de communion et libération. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, pour se servir de ces nouvelles technologies pour mieux parler de l'Eucharistie? Et donc, du coup, il est guidé par l'Esprit Saint. Et ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose des questions là-dessus. Qu'est-ce que l'Esprit Saint m'encourage à faire, à créer pour annoncer l'Évangile? Pour ça, de ce point de vue-là, ça peut être un modèle pour nous.
Aurore Caudal, sur ce geek, qu'est-ce que vous ajouteriez? Qu'est-ce qu'il y a de frappant quant à sa vie, on va dire, du côté des ordinateurs, et arrivant à mélanger justement une foi ardente et ce rapport aux nouvelles technologies?
Alors, je dirais aussi que sur Internet, il va pendant plusieurs années se nourrir de recherches qu'il va faire en posant toutes ces toutes ces questions un peu théologiques à Google pour comprendre qui est Jésus, qu'est-ce que l'Eucharistie, tout ça. Donc il va aussi faire beaucoup de recherches sur Internet, ce qui est, moi ça me fait sourire aussi. Et je rajouterais aussi, nous on a coutume de dire quand on présente Carlo, que c'est un petit peu le chouchou du pape François. Et c'est vrai que le pape François parle de lui en disant qu'il a su utiliser vraiment avec génie toutes les technologies nouvelles pour les mettre au service de l'évangélisation. Donc c'est ce qu'on a dit. Mais voilà, le pape François souligne vraiment cet aspect de génie.
Alors on peut parler de sa fascination aussi donc pour les miracles eucharistiques, qui sont aussi pas toujours très connus, même dans l'Église. Qu'est-ce que Will Conker, est-ce qu'on sait comment est née cette fascination? Et puis est-ce que vous pouvez dire quelques mots de cette grande exposition à laquelle il a travaillé et dont il n'a pas vu, sauf erreur de ma part, l'inauguration et que vous avez évoqué à plusieurs reprises?
Alors comment ça naît? Ça naît chaque année, il y a à Rimini une rencontre de chrétiens organisée par un mouvement qui s'appelle Communion et Libération. Et là, il est fasciné parce qu'il voit le rapport fructueux qu'il peut y avoir entre la religion et la culture, entre notre foi chrétienne et notre société. Et du coup, il va se dire, mais c'est génial. Mais il y a un truc qui lui manque. Il dit, c'est super ce rapport un peu, voilà, sur la culture, sur l'art et tout ça. Mais il dit, on arrive à parler aussi de Jésus, quoi. Est-ce qu'on le sait bien, mais comment est-ce qu'on fait pour nous aujourd'hui mettre toutes ces nouvelles technologies au service de l'évangélisation? Il voit dans la rue des pubs, il voit à la télé des pubs, il dit mais c'est incroyable tous les moyens qu'on met pour faire du marketing pour des choses qu'on consomme, mais pour parler de quelque chose qui nous sauve, quels moyens est-ce qu'on met? Et lui, il dit bah, ces nouvelles technologies, ces nouveaux moyens, je veux les mettre au service de l'annonce du mystère que l'on a oublié, c'est la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et du coup, c'est comme ça que ça va naître. Et du coup, il suit le modèle de Communion et Libération, il suit le modèle de ceux qui l'ont précédé, et il actualise, il modernise. Et ça, du coup, c'est comme ça que ça va naître, et ça va être un gros travail. Et il ne le fera pas seul. Il va le faire avec des amis, avec ses catéchistes, ses parents vont l'aider, avec le curé de sa paroisse, et il va faire beaucoup, beaucoup de recherches. Et ça, c'est tout à son mérite, parce que il n'y a pas beaucoup d'informations, il y a quelques livres, mais il va trouver beaucoup de choses que, en fait, peu de personnes auront si bien rassemblé avant lui. Et ça va avoir beaucoup de succès.
Alors, donc c'est une exposition qui parle de 136 miracles eucharistiques qui sont reconnus par l'Église avec photographie et description. Au départ, donc, c'était un simple site internet et puis son exposition est devenue réelle. Elle a tourné donc, sur les 5 continents. C'est dire, comme il avait été d'une certaine manière bien inspiré. On découvre au fil de cette émission et on se rend bien compte que Carlo Acutis, et vous le disiez que c'était un chouchou du pape François, donc ça ne surprendra personne que je le cite à nouveau, le pape François qui aime cette expression de la sainteté ordinaire, de la sainteté de la porte d'à côté. À propos de cette sainteté, si on revient un peu sur cette vie de foi, ce qu'il y a de déroutant à vous lire, c'est que sa foi était à la fois très simple, mais on avait l'impression inébranlable. Est-ce que vous pouvez raconter par exemple cet épisode quand ses parents lui proposent de partir voyager à Jérusalem en Terre Sainte? Quelle est la réponse de ce garçon Will Conker et qu'est-ce qu'elle dit de sa foi?
Mais lui, ça faut aussi savoir, Carlo est fils unique. Donc ses parents le consultent avant de partir en voyage pour voir si ça l'intéresse ou pas d'aller à Cancun ou à Copacabana. Et lui, en fait, à partir de sa première communion, il va demander à faire quasiment que des pèlerinages et tous les voyages qu'ils vont faire en famille, ça va être lourd, Fatima et tout ça. Mais quand on lui propose d'aller à Jérusalem, comme si finalement on a l'impression qu'il en a déjà vu assez, lui, pour lui, Jésus marche à ses côtés. Et donc il me dit, Jésus, il marche ici avec moi, j'ai plus besoin d'aller voir là où il a marché. Et c'est impressionnant de voir ça, parce que il a une amitié avec le Christ qui grandit d'année en année, et qui est effectivement quelque chose dont lui va peu douter. Il va avoir des épreuves en sa foi, comme cette prière il a eu deux prières au moins dans sa vie, que je sache, qui n'ont pas été écoutées. La première qui était la guérison de son grand-père qui est mort. Et donc ça, pour beaucoup d'enfants, c'est une épreuve. Et donc il a dû accepter que Jésus laisse partir son grand-père. C'est parti du cours normal des choses. Et la dernière qui est cette guérison in extremis qu'il a demandé et qu'il n'a pas eu par lui-même. Et accepter lui-même sa propre maladie et sa mort. Et du coup, il y a une foi qui peut-être est inébranlable, mais qui n'est pas inattaquée, et qui est soumise aussi à des épreuves. Et ça, il faut voir ça. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a traversé ce monde la fleur au fusil, c'est quelqu'un qui a accepté le combat de la foi.
Aurore Caudal, qu'est-ce que vous diriez de la foi de ce garçon? Qu'est-ce qui vous a frappé au long de l'écriture ou de l'accompagnement de l'écriture de cet ouvrage?
Alors moi, ce qui m'a vraiment percuté dans la vie de Carlo, c'est justement du coup cette sainteté de l'ordinaire et cette manière dont il a pu trouver dans son entourage local toutes les voies de sainteté, toutes les expressions possibles pour son propre chemin à lui de sainteté. Donc ça allait de se rendre disponible à ses amis qui étaient un peu rejetés, qui étaient mis à part dans la classe. Ça allait d'inviter des enfants chez lui dont les parents se séparaient et qui du coup vivaient cette séparation difficilement. Ça allait de passer des heures au téléphone avec ses copines qui voyaient toute la journée, mais qui le rappelaient le soir après l'école pour lui raconter leurs problèmes de cœur. Enfin voilà, beaucoup de choses, d'une disponibilité à l'autre, au plus pauvre, au plus petit, à celui qui a besoin de son écoute. Et voilà, c'est vraiment, moi ça m'a renvoyé à ma propre vie. En me disant, en fait, voilà, j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être moi-même missionnaire, pour être moi-même sainte. C'est dans mon entourage local, quand j'ai à faire les bains de mes enfants entre 18h, 20h, les devoirs à faire, tout ce que connaissent les mamans, ce créneau qui est redouté de toutes. C'est dans ce quotidien-là que je vais trouver ma voie de sainteté à moi aussi.
Reconquer, vous avez écrit votre ouvrage en essayant de l'adresser particulièrement aux jeunes. Vous l'avez construit en chapitres, ça va de soi. Mais à chaque fois, vous renvoyez le lecteur à un certain nombre de questions. Peut-être pouvez-vous nous dire, pour les parents qui nous écouteraient, qui voudraient l'offrir à leurs adolescents, comment vous avez conçu cet ouvrage comme une manière de titiller, de réveiller?
Pour moi, c'est un livre qui ne doit pas construire, qui ne doit pas conduire à l'idolâtrie, mais à un chemin de sainteté. Et du coup, j'ai voulu qu'on comprenne que la raison pour laquelle on a écrit ce livre, c'était parce que on reconnaissait les vertus de Carlo. Et que nous, si on veut être saint, faut pas penser que ça va seulement tomber du ciel. Évidemment que la sainteté est une grâce du ciel, mais aussi il faut se mettre en chemin. Et ce chemin, c'est celui des vertus. Les vertus théologales, foi, espérance et charité, et aussi les vertus théologales qui nous permettent de construire notre sainteté au quotidien comme on construit une maison sur des fondations solides. Et du coup, c'est ce qu'on a voulu proposer pour aider les jeunes aujourd'hui à se construire, quoi. Parfois, on est un peu mou, on sait pas trop, on a du mal à apprendre comment devenir vraiment un vrai chrétien et comment est-ce qu'il faut agir en chrétien, comment est-ce qu'il faut prier en chrétien, comment est-ce qu'il faut grandir en chrétien. Et c'est la vie dans les vertus. La vie dans les vertus qui est tellement importante à la foi des chrétiens. Et du coup, c'est la trame du livre. Un peu le squelette, il va en fait, vertu après vertu, nous proposer des questions. Comment est-ce qu'on vit, nous, par exemple, la justice? Est-ce qu'on a un rapport juste avec les autres? Est-ce qu'on a un rapport juste avec nos parents, avec nos amis, avec les filles, avec les garçons? Quel est notre rapport à cette vertu de justice? Et donc, on va reprendre chacune des vertus comme ça et leur donner de la chair à partir de la vie de Carlo.
Voilà, ce jeune Carlo, jeune exceptionnellement transparent, a dit de lui l'un de ses confesseurs, qui évidemment n'a pas trahi le secret de la confession, qui va donc être béatifié pour rappel le 10 octobre prochain et dont le corps en ce moment est exposé depuis le 1er octobre jusqu'au 17 à Assise avec son suite. Je rappelle le titre de votre livre, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver entre autres pour parler de sa fécondité post-mortem, ce qui nous permettra évidemment de continuer à parler de sa vie, parce qu'il y a encore quelques zones d'ombre ou encore bien des questions, puisque pour être saint, eh bien, il faut aussi comme une reconnaissance post-mortem de Dieu, si j'ai bien compris, et des miracles, il y en a eu. Je rappelle le titre de votre livre, Un geek au paradis, paru aux éditions, première partie.
Radio Présence à Luchon, 94 FM. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Carlo Acutis, premier geek bienheureux, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Avec nous, pour nous en parler, Will Conker, qui est prêtre des missions étrangères, auteur d'un ouvrage intitulé Un geek au paradis, paru aux éditions Première Partie et Aurore Caudal, qui l'accompagne et qui l'a accompagné dans la rédaction de cet ouvrage. Alors c'est donc d'une grande et belle figure dont on parle ce matin, qui va donc être reconnu bienheureux par l'Église. Je vous cite, parmi tous les fioretti qu'on peut trouver dans votre ouvrage, qui disent quand même la qualité de cœur de ce garçon. Une fois, sa maman lui propose de lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Il lui explique qu'il en a déjà une et qu'il n'en a pas besoin. Ce garçon qui économisait pour donner aux plus nécessiteux ce qu'il avait en plus. Ce garçon qui, à la fin de sa vie, je le disais en teasing de l'émission, quand il a été foudroyé par cette leucémie, l'infirmière qui l'accompagnait disait que quand elle lui tenait la main, elle avait l'impression que ce n'était pas elle qui le rassurait, mais l'inverse. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus de ses parents, Will Conker, pour commencer. Sa maman disait de lui que son fils l'étonnait, que c'était son petit sauveur. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Quel impact a-t-il eu dans cette famille?
Transformant. Il a deux parents qui sont parfaitement complémentaires. Un père, et c'est un peu le nord et le sud de l'Italie qui se sont réconciliés. Son père est du nord de l'Italie, d'une grande famille qui travaille dans l'assurance depuis des générations. Sa mère est d'une grande famille avec des origines nobles dans le sud de l'Italie, dans la région de Naples. Et donc, la mère est napolitaine, un peu exubérante, joyeuse, extravertie. Le père, lui, il est froid comme le Mont Blanc en hiver. Et du coup, pour les deux, eh bien, Carlo, il a un effet incroyable sur leur vie. Le père, il m'a confié à quel point son fils le mettait en mouvement. Lui, parfois, le secouait un peu parce qu'il dérangeait l'appartement, parce qu'il courait de gauche et de droite. Mais aujourd'hui, il repense à lui, et il lui manque, bien sûr. Mais quand il a tendance à un peu s'enliser dans une vie spirituelle qui est bien rangée, eh bien, Carlo revient mettre un peu la pagaille dont parlait le pape François aux jeunes. Et du coup, Carlo l'a aidé à avoir une foi plus vivante. Pour la maman, Carlo l'a aidé à avoir une foi plus fidèle. Elle, c'était une femme de l'événementiel, une femme des grands baptêmes, des grands mariages, de l'événementiel catholique, on peut dire. Et la régularité de Carlo lui a donné sa plus belle leçon de vie. Parce que lui, c'était la messe tous les jours. C'était pas juste aller faire ses Pâques et célébrer Noël. C'était aller à la messe dans la quotidiennité. Et du coup, ça, c'est quelque chose vraiment dont on peut apprendre. C'est comme ça qu'on peut dire qu'il a touché ses parents. On pourrait parler aussi du bien qu'il a fait à sa cousine, Flavia, et à d'autres de ses proches et cousins.
Voilà, sa mère, donc, il l'appelait mon petit sauveur parce que, semble-t-il, elle a fait un grand et vrai chemin de foi à la faveur de la présence de ce garçon. Vous l'avez déjà dit, mais allez, vous allez le redire. Angelo Scola, donc je l'ai cité en introduction, qui est donc un cardinal, a dit de lui, ce n'est pas une star du cinéma, mais c'est une étoile dans le ciel. On dit que c'est le premier des milléniums à devenir saint. On a souvent l'habitude de dire dans l'Église que voilà, les saints répondent à certains grands défis de leur génération, que c'est comme la réponse de Dieu aux défis d'une génération. Qu'est-ce que vous voyez, Aurore Caudal, chez Carlo Acutis? Quelle serait cette réponse et à quel défi sa vie serait une réponse?
Alors, moi, je parlerais vraiment d'une fécondité sur la sainteté contagieuse. Voilà, ça a été pour moi une vraie joie d'éditer cette biographie. Et j'ai vraiment reçu de lui, et je pense que voilà, sa vie peut porter ce fruit de la sainteté contagieuse et du chemin de sainteté qui est vécu à la fois dans le quotidien, on le disait, hein, très simple, mais aussi sur une motivation joyeuse.
Will Conker, qu'est-ce que vous répondriez à cette question du défi? Vous dites vous-même dans l'introduction de votre ouvrage que aujourd'hui l'adolescence, ça n'est pas, vous le dites pas comme ça, mais ça n'est pas toujours une partie de plaisir. C'est un grand défi pour un jeune que d'arriver à chercher la vérité et à marcher en vérité selon son cœur. Est-ce que dans le fond, ça serait ça la réponse de Dieu avec la vie de Carlo?
Oui, je pense en partie. Je pense qu'il y a peut-être plusieurs messages à donner. J'ai envie de faire le lien avec l'actualité quand même, parce qu'on est ici on n'en parle pas beaucoup au Cambodge parce que l'épidémie ne nous a pas trop tous touchés, mais je vois bien en Italie, je vois aussi en France par ce que je lis sur les Google News, je vois bien qu'il y a des défis cette année et que les jeunes ont passé cette année plus de temps sur leurs ordinateurs que jamais à cause des cours en ligne, à cause de Facebook, de TikTok et compagnie. Et en fait, Carlo, qui a été un pionnier, qui passait beaucoup moins de temps que nous sur l'ordinateur, qui a fait pourtant plus de bien, eh bien, va nous montrer que ce lieu qui porte parfois le temps non seulement d'une perte de temps, mais d'une perdition de l'âme, peut devenir un lieu de sanctification. Et ça peut nous donner une belle leçon. Pour moi, c'est ça qui est assez actuel avec Carlo. C'est vraiment comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui est rentré dans notre monde, qui s'appelle l'écran. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en faire un écran noir qui va vraiment obscurcir notre vie, ou est-ce qu'on peut en faire un écran lumineux qui va faire du bien pour le monde? Et c'est à nous de choisir.
Will Conker, je le disais, pour qu'un la vie d'une personne soit reconnue par l'Église, donc bienheureuse ou voire même sainte, il faut des miracles. Alors quels ont été les miracles? Quel a été le miracle peut-être qui a été reconnu par l'Église? Et qu'est-ce qu'on peut dire de la fécondité de ce garçon post-mortem?
Alors les conditions du miracle, tout ça, je ne connais pas très très bien pour vous dire la vérité. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a énormément. Celui qui a été retenu, il y en a un. Mais j'ai parlé avec la maman et il y en a énormément. J'ai même encore récemment des gens qui m'ont écrit pour m'en parler. J'ai un ami, l'ami avec lequel on fait actuellement la neuvaine sur hosanna.org. Lui témoigne d'une guérison en sa vie par l'intercession, une guérison médicale, par l'intercession de Carlo. Donc je pense qu'il y a une abondance de grâce qui sort de ce petit adolescent, quoi. Et ça, c'est fascinant. Il n'y a pas un seul miracle. Moi, si je pouvais vous parler de miracles, et ma mère vous en témoignerait de dizaines et dizaines. Je ne me souviens plus très bien les conditions du miracle qui a été retenu. Peut-être que Aurore en vient
mieux. Je vais vous aider, puis après, vous allez nous parler de la fécondité spirituelle de ce garçon pour finir. Il s'agit donc d'un enfant brésilien qui était atteint d'une déformation grave du pancréas et qui, en 2010, après que ses proches ont prié Carlo, le pancréas revint à lui-même, à la normale, sans intervention chirurgicale. Bref, un miracle. À la mort de ce garçon, il y avait beaucoup de monde à sa messe d'enterrement. On peut imaginer que voilà, quand un adolescent de 15 ans part, évidemment, surtout aussi rapidement, en quelques jours, vous l'avez rappelé, c'est un choc pour tout le monde, donc l'émotion était vive. Pour finir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelque part de son rayonnement spirituel rapidement après sa mort? Ça a pris comme une traînée de poudre?
Absolument. Et du coup, c'est un mot que vous avez utilisé plusieurs fois, un mot que utilise son confesseur, un mot que vous avez utilisé sur le rayonnement qu'il y avait sur ses parents, c'est le mot transparent. Je pense que nous, parfois, on dit heureux les scellés, ils laisseront passer la lumière. Et en fait, Carlo, il n'est pas scellé, il est juste totalement transparent. Il n'est pas comme une tasse cassée, il est comme un verre d'eau, un verre de cristal. Et il nous parle par-dessus la pureté de sa vie, du rayonnement qu'on peut avoir de l'évangile. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et je pense qu'aussi, ils nous le montreront, Dieu. Et du coup, ce qui est très beau pour nous, c'est de voir que Carlo, par la pureté de sa vie, dans un monde qui est miné par la pureté, et Internet en est une bonne cause, eh bien, il nous donne de l'espoir. Il nous dit que c'est pas tout perdu, que le monde n'est pas totalement pourri. On vit une année très très dure, on perd beaucoup d'espoir, et ce petit garçon, il va venir nous prendre par la main et nous dire, on peut y aller. On va croire à la sainteté pour le 21e siècle, et on va marcher ensemble avec le Christ, et on va y aller. Et du coup, c'est ça qui est beau. Et aujourd'hui, cette fécondité, elle se mesure comment? Eh bien, par la diffusion de son exposition sur les miracles eucharistiques. 5 continents, des langues, le vietnamien, l'arabe, l'espagnol, je peux pas toutes les dire. C'est fascinant. Et cette fécondité, elle est là. Elle est là aussi dans la fascination. C'est-à-dire que le monde est en recherche de modèles, est en recherche de héros, et l'Église nous en propose. Elle nous propose des gens qui vont être des témoins de la vertu, des témoins de la grâce de Dieu dans notre monde. Et ce témoin, aujourd'hui, il s'appelle Carlo.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église de loin, du Cambodge ou de Paris, pour parler de ce garçon, donc né pour rappel en 1991, décédé à l'âge de 15 ans en 2006, et qui disait, alors qu'il allait mourir, « Il faut que je m'en aille », semble-t-il, non pas de manière résignée, mais tendue vers ce qu'il attendait. Voilà, magnifique vie à découvrir. Je rappelle le titre de votre livre, « Un geek au paradis » paru aux éditions Première Partie. Ce jeune garçon qui va donc être béatifié à Assise le 10 octobre prochain, et ceux qui, par hasard, iraient en Italie ou voudraient faire le voyage, son corps est exposé dans cette ville jusqu'au 17 octobre prochain. Dernière information, on peut retrouver un site internet www.vivanteeglise.org. carloacoutis.com. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.